Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge. Bienvenue dans notre bulle d'optimisme. Pendant une heure, nous allons découvrir des femmes et des hommes qui osent et qui accompagnent les changements de notre société. La France bouge, vous êtes au bon endroit pour découvrir les talents de notre économie. Au sommaire de votre émission, c'est l'acteur majeur de la location de matériel de chantier, de travaux publics, entreprise française qui a 42 ans. Elle a lancé un service de location longue durée avec des machines toujours plus performantes et respectueuse de l'environnement. Le PDG de Kiloutou est l'invité de La France Bouge. À la une, en effet, si vous n'êtes pas bricoleur, eh bien nous, à La France Bouge, on a la solution grâce à Allo Marcel, une plateforme qui vous permet de trouver les meilleurs artisans près de chez vous. On la découvre d'ici quelques minutes. Ensuite, nous partirons à Saint-Étienne découvrir une entreprise centenaire et familiale, spécialisée dans tous les outils industriels. Elle s'appelle Sam Outillage et ce sera la saga du jour. Rendez-vous à 13h30 pour le récit de Quentin Paillet. Le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire la CCI et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Aujourd'hui on reçoit Tinti, c'est un site de vente en ligne de mobilier relooké de seconde main.
Rendez-vous à 13h45 pour le pitch. Et puis en fin d'émission, demain je change de vie. Mélina Boras travaillait dans les ressources humaines près de Strasbourg. Aujourd'hui elle est électricienne et elle vit à la montagne. C'est ça, la France bouge. On ose, on a de l'audace, on ose réaliser ses rêves. Bienvenue, vous pouvez nous suivre sur europe1.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Europe 1. Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici que ça se passe, à La France bouge. Et aujourd'hui, la construction, un secteur stratégique de l'économie. On va en parler avec notre invité du jour. Bonjour Olivier Collot.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le PDG de Kiloutou, entreprise française qui est née en 1980. Vous louez des équipements à tous les professionnels du bâtiment. Ça peut aller des pelles, des outils, des nacelles, tous les équipements. Acteur majeur donc de la location de matériel, de chantier, de travaux publics. Vous avez plus de 300 000 clients. Ce sont surtout des professionnels des chantiers dans le BTP. 6 000 salariés. La France est votre principale activité. Alors, Olivier Collot, Kiloutou est très connu, pourtant vous êtes très axé sur les professionnels.
Oui, absolument, on est, comme vous l'avez dit, on a beaucoup de clients, 300 000, on loue beaucoup de matériel, 250 000 machines au total. On a commencé il y a 40 ans avec les particuliers, avec du petit matériel de bricolage, et puis avec les années, on a évolué sur une cible de clientèle plus professionnelle, et aujourd'hui, 95% de nos clients sont des pros, majoritairement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Et ce sont les plus grandes entreprises de construction en France qui sont vos clients. Olivier Collot, Kiloutou est un indicateur avancé du BTP. Comment ça va en ce moment, votre activité? Vous avez su rebondir après la crise sanitaire. Le marché allait très bien. Comment ça va aujourd'hui en 2022?
Alors ça va bien. On a eu, comme vous l'avez dit, en 2020, on a été touché particulièrement par la crise du Covid, avec un arrêt des chantiers en France et donc un arrêt de notre activité de location. Le rebond s'est fait assez rapidement à partir de l'été 2020 et puis l'année 2021 a été bonne, même très bonne. 2022 commence bien. On a évidemment un environnement qui est un petit peu turbulent avec l'inflation, avec la perturbation des chaînes de livraison mondiales, avec une situation géopolitique un petit peu particulière. Maintenant, notre activité est bonne et je reste confiant sur le fait que ça devrait rester très porteur.
Donc, il y a eu un rebond d'après-crise. Là, vous l'avez dit, il y a de l'inflation, la remontée des taux d'intérêt, il y a plein de choses, les problèmes d'approvisionnement, la guerre en Ukraine. Vous n'êtes pas impacté. Aujourd'hui, ça va.
On n'est pas impacté parce que déjà sur la situation géopolitique, nous ne sommes pas ni en Ukraine ni en Russie, donc on n'a pas d'impact direct. Les impacts que l'on aurait seraient des impacts indirects si les éléments dont on a parlé avaient un impact sur nos clients. Mais aujourd'hui, encore une fois, on reste vigilant, mais l'activité reste bien orientée.
Donc confiant et vigilant. Ils vous disent quoi, vos clients qui sont, eux, dans la construction, vos clients directs? Ça va au niveau de la confiance?
L'activité est bonne aujourd'hui. Après, le sujet, c'est le sujet de l'inflation. Et je pense que pour tout le monde, pour tous ceux qui font des travaux chez eux, on voit bien que quand les matières premières deviennent plus chères, ça flambe. Le bois, l'acier et beaucoup d'autres matières premières, ça renchérit le coût des chantiers. Donc ça aura sans doute un impact à moyen terme, d'ici quelques mois, sur le niveau d'activité. Mais je pense que ça sera un atterrissage en douceur. Et aujourd'hui, encore une fois, je trouve que la dynamique est bonne. Les carnets de commandes sont notamment bien remplis chez les clients et notamment chez les artisans.
Olivier Collot, vous êtes le PDG de Kiloutou. Vous êtes une formidable vigie concernant ce marché du bâtiment. Comment vous voyez les choses, hein? Ça ralentit tout de même un petit peu. La Fédération française du bâtiment affiche, là, ces derniers jours, ses craintes pour 2023.
Alors, on voit un ralentissement sur certains segments, notamment le logement neuf. Là, à un horizon de 9 mois, 12 mois, on aura vraisemblablement un ralentissement. Après, il y a d'autres secteurs qui vont très bien. Le secteur de la réhabilitation, la rénovation du bâtiment va bien. On a un nombre de bâtiments à rénover en France qui est quand même assez colossal. Et je pense qu'il faudra qu'on le fasse si on veut aller dans le sens de la transition énergétique. Donc, globalement, je reste assez confiant sur notre marché, sur nos perspectives et plus particulièrement pour la location.
Donc, pour la location, et vous venez de le dire, hein, le secteur de la rénovation se porte bien, il va bien. C'est hyper important pour vous puisque vous êtes petit à petit, Kiloutou, en train de vous positionner comme un acteur majeur de cette transition environnementale.
On a effectivement une place importante dans ce secteur-là puisque on est en plein dans l'économie de l'usage. C'est-à-dire qu'on constate de plus en plus chez nos clients une migration de la propriété d'un matériel vers l'usage d'un matériel. Et en fait, la location, c'est l'économie d'usage. Louer un matériel, c'est le partager avec d'autres utilisateurs. En ça, c'est durable. Et d'ailleurs, on a fait le calcul. Louer un matériel, c'est réduire, diviser par deux, les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la propriété d'un bien, tout simplement parce que les matériels chez Kiloutou vont être utilisés et partagés entre le plus grand nombre d'utilisateurs et nos équipes de techniciens. On a près de 1000 techniciens aujourd'hui chez Kiloutou, travaille à maximiser la durée de vie de nos matériels.
Donc vous, votre métier, si je comprends bien, c'est d'avoir, vous avez du matériel et vous le partagez sur les chantiers avec un modèle économique donc basé sur la location. On est dans un modèle donc vertueux puisque l'idée c'est de pouvoir partager le plus possible ces machines. Est-ce que ça signifie que vous êtes aussi en train de vous transformer dans votre organisation, dans votre logistique?
Ça a beaucoup d'implications concrètes opérationnellement. Ça veut dire qu'on doit être capable de couvrir tout le territoire. On a 450 agences en France. On en a 600 au total en prenant les autres pays dans lesquels on est présent. Donc, il faut être au plus près du terrain pour être au plus près de nos clients. Ça veut dire qu'on doit s'organiser au niveau logistique pour être capable de livrer ces matériels et avec des équipes dans les agences qui soient au plus près des clients pour répondre à leurs attentes, pour intervenir sur les chantiers en cas d'assistance technique sur les matériels. Donc, ça a une implication effectivement opérationnelle pour être au plus près des territoires.
La crise du Covid vous a aidé à accélérer tout cela avec vos clients?
Alors, passer la stupeur d'un coup d'arrêt brutal de l'activité, on a effectivement vu une accélération, notamment sur le plan de la transition environnementale. Kiloutou, on avait pris des engagements en termes de trajectoire carbone avec une ambition de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. On a bien vu que la crise du Covid avait accéléré les annonces de trajectoire de la part des plus grands clients du BTP. Donc on voit bien qu'il y a eu un éveil des consciences, en tout cas une accélération de la prise de conscience et que je trouve, en tant que citoyen, extrêmement vertueux.
On va continuer à parler avec vous, Olivier Collot, de cet éveil des consciences, même dans votre secteur d'activité. Vous êtes le PDG de Kiloutou et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France Bouge, l'émission qui met en avant nos pépites françaises, nos entrepreneurs, nos start-up. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous, Olivier Collot. Vous êtes le PDG de Kiloutou. Et plus d'un Français sur deux bricole régulièrement à la maison. Tiens, c'est votre cas, Olivier Collot?
Moi, à titre personnel,
oui,
j'ai
oui.
Le droit à un joker ou pas?
Non, je
bricole un peu, mais ma femme trouve que je bricole très mal.
Ah, bon, bah alors on va croire votre femme.
donc du coup, je m'appuie sur des professionnels qui le font beaucoup mieux que moi.
Ah bah justement, ça tombe bien, parce qu'effectivement, quand on a des petits travaux à faire à la maison, ça peut aller de la fuite d'eau à des gros travaux, comme de la rénovation de cuisine ou de salle de bain. Alors quand on n'y arrive pas, il y a des solutions comme la vôtre. Solène Xavier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Allo Marcel. C'est une plateforme qui référence les meilleurs artisans autour de la maison, autour de chez nous. Ça existe depuis 6 ans. Et alors, avant d'aller dans la solution concrète d'Allo Marcel, c'est que tout est parti de votre propre expérience. Hein. Souvent, les bonnes idées naissent de notre propre vécu. C'est à la suite d'une expérience personnelle. Pendant un week-end, vous aviez dû chercher un plombier pour une fuite d'eau. Et ça a été très compliqué, beaucoup d'énergie perdue et très cher.
Voilà, exactement. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. C'est d'avoir une fuite d'eau, donc quelque chose d'assez banal finalement. de devoir trouver un plombier quand on n'en connaît pas, et ben on va chercher un petit peu au hasard. En l'occurrence, sur Internet. Un samedi, c'est compliqué en plus d'avoir quelqu'un disponible, donc beaucoup de temps perdu là-dessus. Et puis après, il y a quand même sur qui est-ce qu'on tombe. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui va chercher à vous arnaquer, comme 9 fois sur 10, hein, quand on prend le premier qu'on trouve un petit peu au hasard.
C'est bizarre, cette mentalité, quand même. Hein.
C'est vrai. Effectivement, c'est bizarre et c'est très dommage, parce que ça ternit toute l'image d'une profession. Et moi, c'est un peu le constat que j'ai fait. Je me suis dit, mais en fait, on est tous confrontés à ça. Il y a beaucoup d'arnaques. Et finalement, ceux qu'on trouve le plus facilement, c'est ceux qui vont vous arnaquer le plus. Et pourquoi ne pas trouver les bons artisans et les mettre en valeur? Justement, donc c'est un peu l'idée de base d'Allo Marcel, c'est de dire il y a des bons artisans, ça existe, seulement ils sont difficiles à trouver.
Et vous êtes notre relais pour les
voilà,
trouver.
Voilà, exactement.
Alors vous faites comment et nous on fait comment?
Et alors, nous comment on fait Allo Marcel? On va sélectionner les artisans, donc on a tout un processus de sélection qui passe notamment par la recommandation. On va demander des recommandations d'anciens clients, on va les appeler. On a également tout le temps un entretien avec le chef d'entreprise pour voir un peu son état d'esprit et voir si on a envie de travailler avec lui. Parce que moi, ce que je dis, c'est que si je recommande quelqu'un, ça serait quelqu'un que j'accepterais de venir voir chez moi ou chez ma grand-mère. Je veux être en totale confiance.
Une personne de confiance.
Et voilà. Et puis, bien sûr, au-delà de ça, il y a tout ce qui est un peu administratif, les assurances. Donc, on va vérifier ça. Donc, ça, c'est notre processus de sélection. Et puis, bien sûr, un suivi à l'issue de chaque intervention. Mmh. Et vous, en tant que client, comment vous faites? Vous allez sur le site allomarcel.com. Et aujourd'hui, on a trois domaines d'activité. On a tout ce qui est dépannage, donc la petite intervention rapide.
Il y a les petits travaux
rapide.
Et il y a les gros travaux.
Et il y a les gros travaux, mmh. Exactement, où là, on est plus sur quelque chose de sur-mesure, mmh, où nous, on va chercher à bien vous accompagner.
Avec des décorateurs qui entrent en jeu, c'est
exactement.
Clair, dans un package global. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus, Solène Xavier, pour Allo Marcel?
Alors, justement, de plus en plus, au début, ça a démarré sur le dépannage, parce que c'était ça le concept initial. Et en fait, très vite, on m'a plus demandé de trouver des artisans pour des chantiers de moyenne taille. En fait, il y a sans doute beaucoup de solutions quand on fait un gros, gros projet. On construit une maison, il y a plus d'entreprises qui sont intéressées parce que c'est un gros projet. Mais tout ce qui est moyenne taille, alors là, je vous parle de chantiers entre 20 et 35 000 euros, où nous, on a beaucoup de demandes là-dessus parce que ça va être rénover un appartement, un 3 pièces à Paris. C'est des choses comme ça qui ne sont pas énormes.
C'est-à-dire donc que vous arrivez avec tout le corps de métier,
voilà,
on n'a plus
exactement.
À s'occuper de rien. Et c'est surtout ça qui est compliqué quand on doit suivre un chantier. Vous travaillez avec plus de 800 sociétés aujourd'hui,
oui. Hein,
des plombiers, des décorateurs, des artisans. Vous êtes essentiellement sur Paris ou partout?
Alors, on est autour des grandes villes de France, donc Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Nice, donc c'est un peu les zones sur lesquelles on a démarré officiellement. Et puis là, on est en train de s'étendre partout en France parce qu'on a des demandes partout sur la France.
Olivier Collot, vous êtes le PDG de Kiloutou. Alors on le sait, Kiloutou, c'est essentiellement pour les professionnels du bâtiment, du chantier, c'est pas pour nous les particuliers. Mais quel regard portez-vous pour ces solutions comme Allo Marcel?
Je trouve l'idée excellente parce que comme vous le disiez déjà, il y a un marché qui est extrêmement large, que ça soit pour des petits travaux de rénovation ou pour du dépannage, et la demande de partenaires de confiance, elle est très importante. En vous écoutant, je pensais à ce qui se passe souvent dans nos agences où se croisent des artisans et des particuliers. C'est que le particulier va venir au comptoir et va demander à notre collaborateur: est-ce que tu connaîtrais un électricien, un plombier, un peintre? Et comme nos équipes sont ancrées dans leur ville, elles vont dire oui, je connais un tel qui est très très bien. Mmh. Donc en fait, avec Allo Marcel, ce que fait Solène, c'est de digitaliser un petit peu et professionnaliser le bouche à oreille, qui est extrêmement extrêmement important. Donc non, je pense que l'idée effectivement est très bonne.
L'idée est très bonne. Vous n'avez jamais songé à aller vers le particulier, Kiloutou?
Alors on a commencé avec le particulier.
Vous aviez commencé au départ en 80.
On a commencé avec les particuliers. On a encore aujourd'hui des particuliers qui vont présenter 5% de notre chiffre d'affaires. Après quand je regarde la taille du marché est beaucoup plus importante avec les grandes sociétés, notamment parce que ces grandes sociétés de construction ont décidé de plus en plus de louer du matériel et de pas le posséder. Donc finalement, c'est pas tellement le particulier qui a baissé chez nous, c'est plutôt le pro qui a augmenté.
Qui a augmenté. Solène Xavier, là en ce moment, on le disait tout à l'heure, hein, on le voit, on assiste à une hausse des prix, hein, tout flambe. Mmh. Est-ce que ça se répercute sur les prix au sein d'Allo Marcel quand on sollicite un artisan chez vous?
Oui,
clairement, vous avez augmenté.
On a vu que les devis pour des projets de rénovation, alors on n'a pas augmenté sur le dépannage, parce que nous, on cadre les prix sur le dépannage et donc ils sont fixes. Mais sur la partie rénovation, où là, on est vraiment au cas par cas, où on fait un devis en fonction du projet, malheureusement, on l'a vu.
Elles sont où les difficultés que vous rencontrez en ce moment? C'est sur quel type de produit? Sur les augmentations des prix.
Alors, il y a les augmentations à cause du prix des matières premières. Donc, il y a tout ce qui est bois. Hein, donc, ça, on l'a vraiment subi, plus les délais. Donc, tout ce qui est menuiserie, en fait, que ce soit même de l'alu ou du bois, du PVC, on a également des délais qui sont très importants. Donc, il y a à la fois le prix, plus les délais.
Devoir faire
donc,
attendre le client.
C'est un petit peu
compliqué. Ils comprennent les clients?
Les clients comprennent, mais moi, ce que j'ai senti récemment, c'est qu'effectivement, ils vont chercher à comparer, ils vont chercher le meilleur prix. Il y a vraiment ce stress de l'inflation en ce moment.
Ce stress de pouvoir payer. Ouais. Comment vous, votre modèle économique, c'est quoi? Vous vous rémunérez auprès de l'artisan comme un apporteur d'affaires?
Voilà, on est apporteur d'affaires pour l'artisan. Donc, on se rémunère auprès de lui uniquement sur les affaires qui sont réalisées. Donc, il n'y a pas d'abonnement pour lui, mais c'est vraiment s'il gagne, nous gagnons aussi. Et également sur le client pour les projets qui sont importants, va payer un service à Allo Marcel pour le service justement de sélection des entreprises, d'appui aux négociations.
Comme un forfait?
Oui, c'est ça.
De combien?
Alors, c'est un pourcentage du montant du devis, mais qui est capé à 550 euros. Donc, au maximum, c'est 550 euros.
550 euros. Vous êtes combien aujourd'hui à travailler chez Allo Marcel?
Et aujourd'hui, on est une petite dizaine. Mmh. Donc, on a deux agences physiques, une à Paris, une à Lyon, qui sont ouvertes sur la rue. Donc, le public peut aussi venir nous rencontrer. Donc, ça, on adore rencontrer nos clients. On adore également rencontrer nos artisans. Donc, c'est le fait que ce soit en mode boutique. C'est aussi quelque chose qui nous permet d'entretenir le lien avec nos artisans et donc de les connaître et de garantir aussi un niveau de qualité. Les artisans travaillent bien quand ils sont contents de travailler avec vous.
C'est ça, il faut tout parler être en confiance. Voilà. Ça s'appelle Allo Marcel. Merci Solène Xavier d'être venue aujourd'hui nous présenter votre start-up dans La France Bouge. Olivier Collot, vous restez avec nous, vous êtes le PDG de Kiloutou.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour et aujourd'hui nous sommes ravis d'être avec vous Olivier Collot. Vous êtes le PDG de l'entreprise Kiloutou, entreprise française qui est née en 1980 et vous louez des équipements à tous les professionnels du bâtiment. Vous êtes un acteur majeur dans cette location de matériel. Il y a aussi du bricolage, du jardinage, il y a de tout. C'est pas forcément quand on dit chantier, on pense aux gros chantiers, mais il y a aussi du matériel de bricolage, de jardinage, de chantier et de travaux publics. Alors vous nous avez dit que c'était bien reparti après la crise, vous avez bien repris. Vous vous êtes porté en quelque sorte par le secteur du BTP. Vous êtes dans une véritable économie de partage. Et là, on ne s'y attend pas quand on pense chantier, quand on pense BTP. On n'y pense pas forcément à toutes ces machines. Si on rentre dans le détail des machines que vous utilisez, vous vous dirigez de plus en plus, comme ce sont des machines que vous louez, vers du matériel hybride, électrique?
Absolument. Le matériel a sa part à prendre dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Le bâtiment au sens large, le BTP, est un contributeur aux émissions de gaz à effet de serre. Et si je regarde uniquement le matériel représente 20% des émissions de gaz à effet de serre sur un chantier. Donc ça veut dire que c'est quand même important. Et on souhaite aller dans cette direction-là pour des convictions personnelles, mais également pour aider nos clients. Donc de plus en plus, on fait rentrer dans nos gammes des matériels qui fonctionnent avec des motorisations alternative au bon vieux moteur thermique diesel. Donc ça veut dire que c'est de l'électrique, ça veut dire que c'est de l'hybride, bientôt ça sera de l'hydrogène.
Vous planchez déjà sur l'hydrogène?
On commence à regarder des matériels hydrogène, c'est encore un peu tôt pour avoir des matériels qui soient, on est plutôt au stade des prototypes, donc on n'a pas encore de matériel qui soit bien finalisé pour nos gammes, mais on regarde ça. En revanche, ce qui existe déjà, c'est des matériels hybrides et électriques.
Donc on pourrait voir sur nos chantiers d'ici quelques années des grosses machines à base avec des moteurs à hydrogène.
On aura, ça c'est quelque chose qui est envisagé. Ça sera sans doute des très grosses machines pour les moteurs à hydrogène.
Donc ça veut dire que vous avez changé vos machines récemment, vous avez dû investir dans des nouveaux produits?
Absolument, ça veut dire qu'on investit dans ces produits-là. Si je regarde cette année, on va investir plus de 30% de nos matériels motorisés dans des motorisations électriques ou hybrides.
Mais ça veut dire que vous changez le moteur ou vous changez la machine?
Non, c'est-à-dire que notre modèle en fait est d'acheter des machines et de les garder le plus longtemps possible. Et donc au moment de les renouveler, plutôt que prendre une machine thermique, on va voir s'il existe une machine électrique ou une machine hybride et on l'achète. Et on a d'ailleurs lancé une gamme pour nos clients un pacte avec un cas comme Kiloutou, pour que les clients puissent s'y retrouver en disant, bah tiens, quelle serait pour moi l'alternative à un moteur, à une machine fonctionnant avec un moteur thermique? Et on lui dit, on a au total 3500 matériels qui fonctionnent avec ces motorisations alternatives. On lui dit, bah voilà, on a trouvé pour toi la solution.
Et vous en faites quoi des machines que vous n'allez plus utiliser?
Alors, les machines qu'on n'utilise plus sont revendues d'occasion
à des concurrents qui n'ont pas la transition environnementale en priorité.
C'est généralement pas des concurrents, c'est plutôt des utilisateurs. Qui, donc ça va être un paysagiste, une société d'espace vert, une petite société de bâtiments qui souhaite avoir une machine et qui peut prendre une machine qu'on aura gardée pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans.
Quand on vous entend parler, Olivier Collot, donc PDG de Kiloutou, dans cet accompagnement de cette transition environnementale, on a l'impression que vous voulez peut-être faire figure d'exemple dans ce domaine, de votre marché, hein, bien sûr.
Au sein de notre marché, parce qu'on pense qu'on a notre part à prendre. Comme je l'ai dit, le bâtiment a son rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique et il faut vraiment qu'on agisse en écosystème. Ça fait 10 ans chez Kiloutou qu'on fait notre bilan carbone et en faisant notre bilan carbone, il y a un paradoxe qui est que le plus gros de nos émissions de gaz à effet de serre vient de l'utilisation de nos machines. Et le paradoxe, il est sur le fait que ces émissions viennent de quelque chose qu'on ne fabrique pas et de quelque chose qu'on n'utilise pas parce que ce sont nos clients. Donc en fait, on a besoin de se mettre à trois autour de la table, celui qui fabrique la machine, celui qui la détient et l'entretient, le loueur, et celui qui l'utilise. Et ça nous a amené à créer une initiative avec nos principaux fournisseurs de matériel et nos principaux clients qu'on a appelé les acteurs du matériel durable. On est une soixantaine d'entreprises dans ce groupe. On aura d'ailleurs une...
Vous avez des rencontres, hein, d'ailleurs.
On a des rencontres, absolument, et on en a une,
cette semaine.
On en a une qui arrive le 29.
Les rencontres du matériel durable.
Absolument, rencontres du matériel durable, où on a réuni donc une soixantaine d'acteurs qui se sentent concernés par la problématique et qui veulent agir. Et l'objectif de ces rencontres, c'est de donner des leçons à personne, mais c'est plutôt entre nous de trouver des solutions très concrètes en disant quelles sont les solutions techniques qui peuvent exister demain, comment est-ce qu'on fait pour accompagner le changement, quels sont les besoins en termes de formation pour nos équipes. Parce que,
ça peut aussi attirer des talents quand on fait autant attention à l'impact climatique, à ce que vous allez pouvoir faire pour améliorer la planète, pour protéger la planète. Ça peut aussi attirer des nouveaux talents parce qu'on sait que c'est aussi une profession qui affiche une pénurie là aussi de main-d'œuvre.
Absolument. C'est alors la construction au sens large a des pénuries de main-d'œuvre. Kiloutou n'échappe pas à la règle. Au moment où je vous parle, on a pour ambition de recruter 1000 personnes cette année et ça va être et on fait tout pour bien les recruter. Donc oui, la transition environnementale est une façon. Enfin, ça attire des talents. Après, on ne fait pas pour ça en priorité. Hein. La raison pour laquelle on l'a fait. C'est un tout. La raison pour laquelle on fait, c'est que je pense qu'une entreprise qui ne prend pas sa part de la lutte contre le réchauffement climatique n'existera sans doute plus dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc on souhaite contribuer à ce changement et c'est vrai que ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Ça attire des talents, mais même les talents qui sont déjà dans l'entreprise sont extrêmement fiers de pouvoir contribuer à ces actions-là.
Alors, vous étiez en train de nous dire que vous étiez en train de recruter 1000 personnes cette année. Quel profil ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, des profils très, très variés, des techniciens, puisque c'est notre première catégorie de collaborateurs. On a 1000 techniciens au total, des commerciaux et également des chauffeurs poids lourds.
Des chauffeurs poids lourds. Pour donner envie, parce qu'à chaque fois maintenant, aujourd'hui, dans la France bouge, hein, tous les jours, les entreprises, les patrons nous disent, voilà, on recherche tel profil. C'est quoi votre culture dans votre entreprise ? Qu'est-ce qui pourrait donner envie d'aller travailler chez vous ?
Alors, c'est compliqué de décrire une culture d'entreprise comme ça, mais on a une culture forte qui fait de Kiloutou une entreprise différente des autres. Il y a des valeurs qui sont très importantes pour nous, l'obsession du client, le partage de la performance. On a une culture et une ambiance qui sont assez particulières et on a des équipes qui sont heureuses de travailler chez Kiloutou.
C'est quoi une ambiance particulière ? C'est quoi ?
Une ambiance particulière, c'est déjà le tutoiement. Tout le monde se tutoie et c'est pas un effet de mode. C'est beaucoup de promotions internes. Moi, je suis très fier. Je suis entré chez Kiloutou. J'ai eu l'occasion d'y exercer 5 métiers. La moitié.
Vous avez fait une bonne partie de votre carrière là-bas.
J'ai fait 13 ans chez Kiloutou et j'y ai fait 5 métiers. Beaucoup de plus de la moitié de nos équipes dirigeantes sont issues de la promotion, promotion interne.
Donc il y a effectivement possibilité d'évolution de carrière.
Possibilité d'évolution, voilà. Donc nous recherchons effectivement des collaborateurs qui ont envie de bosser dans une boîte française, qui ont envie de bosser dans une boîte qui bouge.
En plus, vous tutoyez le patron, donc franchement,
c'est sympa. Et on tutoie le patron,
c'est pas mal. Voilà. Vous recherchez partout en France ?
On recherche partout en France, on a 450 agences, donc vous avez forcément une agence près de chez vous.
Vous restez avec nous, Olivier Collot, parce que chaque jour dans La France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association qui traverse les années, qui sont toujours là en France, qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, on va vous parler des clés, de serrage, des pinces, des ciseaux, de la martellerie ou encore de la plomberie, tous les outils nécessaires pour des travaux. On va aller à Saint-Étienne découvrir l'entreprise familiale Sam Outillage et c'est la saga du jour.
Europe 1. La France bouge, la saga.
Bonjour Quentin Payet.
Bonjour Elisabeth.
Une entreprise centenaire située à Saint-Étienne, elle est familiale et c'est la quatrième génération en ce moment.
Oui, tout commence en 1906. François Blanc crée les forges stéphanoises pour fabriquer des pièces pour le monde de l'automobile et du ferroviaire. Mais l'entreprise prend un virage avec l'arrivée des soldats américains en 1917, à la fin de la Première Guerre mondiale. Ces soldats sont accompagnés de tout un matériel, de l'outillage à main industriel forgé de haute qualité qu'ils font découvrir aux Français, clés, pinces, tournevis, cisailles, coupe-boulons. Alors, après la guerre en 1920, François Blanc reconvertit une partie de ses ateliers de forge vers la production, pour la production d'outillage industriel, et le baptise Sam, comme l'oncle Sam d'Amérique, pour rendre hommage aux soldats venus de l'autre côté de l'Atlantique. Et le premier outil à sortir de l'usine, c'est la fameuse pince Monseigneur, autrement appelée coupe-boulon. On va écouter Olivier Blanc, président de Sam Outillage et quatrième génération à la tête de l'entreprise.
Après ce fameux coupe-boulon, les premiers outils et notamment les premières créations, c'est ça qui est important, les premières innovations de Sam, ça a été cette fameuse clé à pipe débouchée dès 1933. Après, nous avons eu la première clé dynamométrique mécanique dans les années 1950, la pince étau autobloc dans les années 60. Et chaque année, il y a eu des créations d'outils par l'entreprise Sam Outillage.
Des créations d'outils, hein, on peut dire que c'est un peu ça l'ADN de Sam Outillage. L'entreprise ne vend pas aux particuliers, hein, comme Kiloutou. Pourtant, d'une certaine façon, on est tous un peu en contact avec ces outils parce qu'ils sont très, très utiles au quotidien.
Oui, Elisabeth, par exemple, vous êtes dans un garage et le mécanicien prend soin de votre voiture. Il utilise un purgeur de circuit de refroidissement. Eh bien, c'est très précis. Eh bien,
oui,
cet outil
précis.
A été conçu par Sam Outillage en lien avec les ingénieurs de Peugeot et de Renault. Sam Outillage travaille en étroite collaboration avec des grandes entreprises industrielles comme Airbus, la SNCF, Stellantis, le groupe qui rassemble Peugeot, Citroën, Fiat et Chrysler, avec comme objectif de les diffuser au plus grand nombre.
On a créé une clé mécatronique pour le groupe Airbus. On est sur des distributeurs intelligents avec la SNCF. En fait, on valide à chaque fois ces innovations avec ces grands comptes. Et puis après, évidemment, on les déploie au plus grand nombre d'utilisateurs professionnels possible. En fait, Sam Outillage a toujours développé une gamme de produits extrêmement large. Hein. Et aujourd'hui, quand je vous parle de ces innovations, on est évidemment dans les outils intelligents, puisqu'on pense que de plus en plus, c'est l'outil qui va accompagner l'opérateur dans ses missions, qui va lui indiquer les fonctions qu'il aura pour qu'évidemment, il soit toujours plus fiable, plus précis, plus productif, plus efficace.
Les trois secteurs sur lesquels travaille Sam Outillage sont la maintenance et la production industrielle, la réparation automobile et le monde de l'artisanat et des entreprises du bâtiment. Et les deux grandes forces de Sam Outillage, c'est de produire en grande partie en France, à Saint-Étienne, et aussi d'être une entreprise familiale depuis plus de 100 ans.
L'essentiel, on le trouve dans les valeurs qu'on défend depuis 4 générations. Nous, on appelle ça les tripes. Il faut avoir des tripes. Ces 6 valeurs sont le T de travail, le R de respect, le I de intégrité, le P de proximité, le E de exemplarité et le S de sécurité. Ce sont vraiment ces valeurs sur lesquelles on travaille en permanence avec nos collaborateurs et qui donne le sens au travail pour chacun, la raison de participer à ce fabuleux projet qu'on mène depuis 100 ans maintenant, depuis plus de 100 ans, pour faire de Sam un acteur important dans le monde de l'outillage à main.
Alors Sam Outillage, on l'a bien compris, est une pépite industrielle française. L'entreprise de 170 salariés exporte dans le monde entier. Ça représente 30% de son chiffre d'affaires.
Merci Quentin Paillet pour la saga du jour de Sam Outillage, un fabricant d'outils professionnels depuis 1921. Entreprise familiale. Olivier Collot, vous êtes le PDG de Kiloutou. Vous êtes notre grand témoin du jour. Quel regard portez-vous sur ce genre d'entreprise, hein? Et puis ça me fait penser aussi aux innovations. Vous aussi, j'imagine que vous innovez dans les outils chez Kiloutou.
Déjà, j'adore ces sagas d'entreprise. Hein. Je trouve ça fantastique, ces entreprises qui arrivent à évoluer, qui arrivent à se réinventer, s'adapter à leur marché. Je trouve ça toujours génial, ces histoires d'entreprises. J'adore ces entreprises qui fabriquent en France. Hein. Je trouve que ça, au moment où on se pose beaucoup de questions, on a la preuve ici, en tout cas elle est faite avec Sam Outillage, qu'on peut fabriquer et se développer en France. Et l'innovation, c'est important dans l'outillage, c'est important dans nos chantiers, ça l'est pour Kiloutou. Tous les ans on rentre des nouveaux produits, le dernier produit qu'on a rentré ce sont des ergosquelettes, donc c'est ce qui va vous permettre sur un chantier d'alléger un peu la pénibilité d'une tâche. Quand vous avez besoin de lever les bras pour quelqu'un qui est en train de changer des luminaires, vous allez avoir un ergosquelette qui va alléger la peine. Donc tous ces sujets-là d'innovation sont au cœur de nos problématiques et c'est au cœur de l'outillage.
Mais c'est hyper intéressant ce que vous nous dites, Olivier Collot. Donc un ergosquelette, ouais. Il va falloir former vos salariés hein, pour pouvoir savoir l'utiliser. C'est quelque chose qui demande du temps aussi.
Alors ça demande du temps pour former nos salariés, alors nos salariés qui vont être capables de commercialiser ce produit ou l'installer chez nos clients. Ça demande du temps aussi d'appropriation par nos clients. Après le jeu, on vaut la chandelle.
Mais parce que ça va réduire la fatigue, la pénibilité du travail de...
Absolument, la pénibilité est un sujet, la pénibilité dans la construction. Il y a quand même beaucoup de travaux qui sont pénibles et qui peuvent donner lieu à des maladies plus tôt que ce qu'on aurait souhaité. Donc pouvoir lutter contre cette pénibilité avec des engins, avec des machines, des outils qui accompagnent le compagnon, l'ouvrier, effectivement, c'est un beau sujet d'innovation.
Ouvrier, pas ouvrière, il y a des femmes ? Chez Kiloutou ?
Il n'y a pas assez de femmes. Il n'y a pas assez de femmes. Très peu. C'est-à-dire qu'on a moins de 20% de femmes dans nos équipes. Donc
Et pourtant, vous en recrutez ? Ce n'est pas un métier réservé aux hommes ?
Ce n'est pas un métier réservé aux hommes. On serait ravis d'avoir beaucoup plus de femmes. Donc je profite là aussi de lancer un appel. Si sur les 1000 collaborateurs qu'on recherche, ça pouvait être 1000 collaboratrices,
venez.
Je serais extrêmement heureux. Et j'ai cru comprendre, quand vous présentiez, Elisabeth, le sommaire de l'émission, que des électriciens peuvent être des électriciennes. Donc j'en
suis
très fier.
On va en parler tout à l'heure avec Mélina Borat dans Demain, je change de vie. Vous restez avec nous, Olivier Collot.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Aujourd'hui, notre patron du jour est exigeant, attentif, bienveillant et c'est un expert. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous, Olivier Collot. Vous êtes le PDG de Kiloutou. Nous sommes avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie, bien sûr. Et aujourd'hui, un projet d'entreprise qui sera lancé en septembre prochain. Bonjour Axel Trénaud.
Bonjour.
Vous avez 31 ans, vous venez de la Vendée et vous êtes le cofondateur de Tinti. C'est une marque de mobilier, de décoration, de seconde main. Vous êtes 4 associés, vous avez fait une école de commerce, vous avez beaucoup voyagé. Et en revenant en France, vous avez imaginé et conçu votre start-up. C'est quoi Tinti ? Ça veut dire quoi ? T-I-N-T-Y.
Alors T-I-N-T-Y, ça fait référence à l'anglais teinte, nuance, couleur.
Teinte, nuance, couleur.
Ça fait référence à toutes les couleurs qu'on va pouvoir donner à un meuble de seconde main.
Tout est fait en France, tout est personnalisable. Alors vous avez une minute, Axel, pour nous convaincre et nous parler de Tinti. C'est parti.
Alors Tinti, entreprise d'insertion, développe un site de vente en ligne de mobilier de seconde main spécialisé dans le relooking et la personnalisation. On y trouve des vendeurs professionnels qui commercialisent des meubles de seconde main bruts en l'état et des meubles qui ont déjà été remis au goût du jour. Tinti propose également une troisième catégorie de meubles qui sont des meubles à personnaliser. Et c'est notre spécialité. Nous récupérons ces meubles auprès de nos recycleries partenaires et sinon ils auraient été jetés. Nous démarrons par la restauration et la réparation de ces meubles dans notre atelier par des ébénistes professionnels qui accompagnent des salariés en parcours d'insertion. Ensuite, le meuble est mis en ligne et nous proposons à nos clients de personnaliser ce meuble à partir de plusieurs designs que nous proposons ou à partir de l'outil graphique innovant que nous développons pour cette fin d'année. Ensuite, le client a deux possibilités, soit faire transformer le meuble par notre atelier, soit se faire livrer le meuble réparé et poncé d'un côté, et les peintures papier peint de l'autre, avec un tutoriel pour les réaliser chez lui.
Merci Axel, on nous avons entendu le gong. Bravo pour votre pitch, hein, le pitch de Tinti. Très important de commencer donc par, c'est une entreprise d'insertion. On va y revenir. Nathalie Carré, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Vous étudiez chaque jour les projets d'entreprise qui nous viennent ici à la rédaction d'Europe 1 pour la France Bouge. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous de Tinti, Nathalie ?
Alors effectivement, on est nombreux quand on veut aménager une pièce ou changer de meuble à regarder Pinterest et autres réseaux sociaux. Et on est nombreux à trouver super joli le buffet de mamie modernisé. En plus, quand on regarde une vidéo YouTube sur le comment faire, ça a l'air hyper simple et trop cool. Ben en fait, pas du tout. À chaque vidéo, une information différente de la vidéo d'avant, parfois une information contradictoire. Alors, on ponce ou on ponce pas avant de peindre ? Telle est la question. C'est là que vous arrivez pour nous prendre par la main. Merci, et comme vous êtes en campagne de financement participatif, on espère que ce projet prendra vie. Il aidera beaucoup de monde, d'autant que votre projet comporte un aspect social important. Alors quelques idées, puisque vous démarrez, et l'entreprise est encore en construction, quatre sujets essentiels sur lesquels d'autres se sont heurtés. D'abord l'approvisionnement en meubles. Vous n'intervenez pas du côté des « jeteurs », entre guillemets, mais du côté des « acheteurs ». Donc plus votre modèle va fonctionner, plus vous aurez un souci de stock. Vous avez prévu de vous approvisionner auprès de recycleries partenaires, mais en tant que particulier, est-ce qu'on a le réflexe de donner à une recyclerie ? Ça demande beaucoup d'efforts, il faut trouver celle qui acceptera nos meubles, ensuite il faut attendre qu'elle puisse venir le chercher, il faut payer l'enlèvement, ben, ça va plus vite de déposer le meuble sur le trottoir. Et l'armoire normande ou bretonne, ça marche aussi. De mamie qui pèse 200 kg ou le buffet de 3 mètres de long en merisier bien brillant, souvent les recycleries ne les prennent pas. Or, rénover et relooker, on adore. Donc, pour en avoir pour tous les goûts, peut-être qu'un jour, il faudra collecter vous-même les meubles directement chez les particuliers. Deuxième point, le recrutement de professionnels. Les ébénistes sont très sollicités et chers. Comment allez-vous les attirer ? Peut-être que le professionnel peut simplement cadrer et contrôler le travail à faire sur chaque meuble, à chaque étape, et ce sont vos salariés en insertion qui font. Ce qui veut dire peu d'heures par semaine, et ça pourrait être un enseignant de CFA qui ferait ça, plus disponible peut-être qu'un ébéniste en activité. Troisième point, le prix. On se tourne vers la seconde main pour des raisons écologiques, certes, mais aussi pour le prix abordable. Or, vous allez acheter les meubles, vous allez payer le personnel et les fournitures pour la rénovation et la personnalisation. Ce qui veut dire qu'une table en merisier ou une commode qu'on peut trouver sur le bon coin pour 60 euros, une fois passée chez vous, va peut-être arriver à 500 euros. En tout cas, c'est ce qu'on peut en déduire de votre campagne de financement participatif. Et là, 500 euros, ça peut faire hésiter les personnes qui cherchent à faire des économies. D'autant qu'il y aura aussi la livraison. Donc vous pourriez peut-être avoir deux gammes, le sur-étagère comme un magasin, vous proposez des produits, on achète ou pas, mais le prix reste intéressant, et le sur-mesure, on vous envoie une photo du meuble qu'on cherche, vous le dénichez, vous le rénovez. Dans ce cas, le prix est plus élevé parce qu'on paye le temps qu'on économise. Et puis dernier point, la logistique. Votre métier est surtout un métier de logistique, collecter les meubles, les entreposer, les livrer, et comme vous êtes une plateforme en ligne pour la France entière, évidemment. Vu que tout ça a un coût et qu'il est de plus en plus élevé, il va falloir innover. Alors peut-être un partenariat avec Conteneur Privé que nous avons reçu à la France Bouge et qui a travaillé sur ce sujet. Voilà, quelques idées pour mettre toutes les chances de votre côté pour que Tindy devienne l'ami des meubles délaissés qui mérite d'être relookés et aimés pour une nouvelle vie dans une nouvelle famille.
Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Axel, comment vous réagissez ? Il y a plein de choses. Hein. Alors, oui, vous allez pouvoir le réécouter. Il y a un podcast sur europe1.fr, vous allez pouvoir le réécouter. Parmi les quatre aspects qu'elle a évoqués, est-ce qu'il y en a un qui vous fait particulièrement réagir ?
Alors, tout à fait, sur l'approvisionnement de meubles, donc il y a un volume colossal de meubles qui sont aujourd'hui jetés par les particuliers et même par les recycleries, hein, qui refusent aux particuliers de récupérer ces meubles. Et donc, nous avons un potentiel d'approvisionnement qui
en amont
qui est
des
quasi...
recycleries, finalement, il faut que vous interveniez.
Alors,
avant.
Alors, aussi bien en amont des recycleries que chez les recycleries, qui, au lieu de les refuser aux particuliers ou de les mettre dans les bennes, les accepteront pour que nous puissions les récupérer et les remettre au goût du jour.
Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des prix, c'est vrai, je pense pas que vous les ayez donnés pendant le pitch, hein, ça va de 150 euros pour un petit meuble jusqu'à 800 euros pour un grand meuble. Effectivement, peut-être distinguer le sur-mesure du meuble sur l'étagère.
Alors, on a des vendeurs qui, effectivement, vont proposer des meubles qui sont déjà remis au goût du jour. Et donc, on va avoir un peu toutes les gammes de prix. Après, sur les meubles à personnaliser, on va le remettre au goût du jour, mais aussi avec des techniques et des machines de professionnels qui vont nous permettre d'approcher un état d'un meuble produit par un acteur de l'ameublement du neuf. Mmh. C'est un peu notre objectif.
c'est un peu votre objectif. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est une entreprise d'insertion. Et je crois que ça vous fait réagir, Olivier Collot, un PDG de Kiloutou.
Bah alors, je ne suis pas un expert de la location ou de la vente de meubles, donc je n'aurais pas des conseils très avisés.
La location, non. Oui. Globalement, le business, vous le connaissez un petit peu.
Je connais le business, mais je ne connais pas le meuble. Non, je pense qu'avec votre idée, vous êtes clairement dans l'économie circulaire et cette économie circulaire, elle résonne beaucoup aujourd'hui. La dimension sociale que vous y donnez a de la valeur. Donc, je ne commenterai pas sur les niveaux de prix. Le seul conseil qui me vient en vous écoutant, c'est n'hésitez pas aussi à faire la promotion de votre idée. Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de consommateurs qui sont quand même très sensibles à l'origine du bien qu'ils vont acheter, à la façon dont il a été fabriqué. Donc, se dire que ça a été fabriqué en France ou reconditionné en France, que c'est fait avec une vocation sociale, je pense que ça permettra aux acheteurs les plus responsables de dire je suis prêt à payer un peu plus cher, mais pour un bien qui a été fait par une entreprise, il y a du sens.
Donc, raconter l'histoire, c'est ça que vous lui conseillez. Raconter l'histoire pour justifier tout ça.
Je pense.
Et nous souhaitons le faire et nous souhaitons intégrer des technologies telles que la blockchain de manière à pouvoir tracer l'histoire d'un meuble en partant d'un particulier, en passant par une recyclerie, étant retapé par un salarié en insertion, Michel, et puis ensuite
et
dans
ça,
une seconde maison.
Et
donc ça, on le racontera, on fera une grande histoire et on pourra tracer l'histoire de ce meuble et donc identifier le modèle économique à impact social et écologique que nous portons.
Et vous reviendrez nous en parler dans La France Bouge, Axel Trenot. Vous êtes le cofondateur de Tinti. Merci à vous. Et
merci
puis,
beaucoup.
Chers auditeurs, si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, l'adresse c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La cérémonie aura lieu dans quelques jours, le 29 juin. On vous dira tout sur Europe 1.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
La France bouge et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours ravis d'être avec vous, Olivier Collot. Vous êtes le PDG de Kiloutou. Et dans La France bouge, on aime mettre en avant les femmes et les hommes qui ont l'audace de prendre des nouveaux chemins professionnels. Comme vous, Mélina Borras, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 36 ans et pendant plusieurs années, vous avez travaillé dans les ressources humaines. Et ça vous plaisait?
Exactement, ça me plaisait. J'aimais faire mon travail.
Ouais, vous faisiez quoi comme travail?
En fait, j'étais assistante ressources humaines.
Assistante ressources humaines.
Tout à fait. J'ai travaillé comme ça pendant quelques années.
Près de Strasbourg, c'est ça, hein?
Sur Strasbourg, tout à fait, à l'Euro Métropole de Strasbourg.
Et au moment de passer des concours pour évoluer, là, il y a eu un petit blocage. Vous n'arriviez pas à vous projeter.
Tout à fait. Je me suis dit que je ne me projetais pas du tout sur le long terme, en fait, sur ce type de poste. Je n'avais encore pas trouvé l'épanouissement parfait. Et je me suis dit, il y a quelque chose et je vais me recentrer sur une nouvelle expérience.
Sur une nouvelle expérience. Donc, vous quittez Strasbourg et là, vous partez à la montagne.
Exactement. un changement autant sur ma vie privée que sur ma vie professionnelle.
Ça va souvent ensemble.
Et pour le coup, c'est là que je me suis retrouvée, du coup, à me lancer dans ce projet de construction de maison.
Donc, vous allez à la montagne. Vous allez où à la montagne, précisément?
À Gérardmer.
Donc, vous allez à Gérardmer. Là, vous êtes donc avec votre compagnon et vous dites, on a envie de construire une maison, mais c'est nous qui allons la construire. Et donc, vous vous mettez à construire la maison. Un beau jour, vous aimez bricoler, mais sauf que c'est parce qu'un électricien vous pose un lapin que là, vous avez un déclic.
Exactement. Et là, je me dis, on se retrousse les manches et puis on se dit, il faut s'en sortir. Donc, on se met à apprendre, à sortir les normes et se lancer dans le projet d'électricité de notre maison. Et en l'occurrence, du coup, c'est moi qui ai pris la responsabilité entière. Et je me suis découverte comme l'emplacement où je devais être, en fait. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, c'est ça que je dois faire.
Donc, ce métier-là. Ce métier, c'est électricienne. Ça signifie que vous avez repris des études? Vous avez fait quoi?
J'ai repris des études au centre de l'AFPA de Golbey pour reprendre, du coup, un titre professionnel d'électricienne d'équipement du bâtiment. Et que j'ai réussi haut la main. Ça s'est super bien passé. C'est une très belle expérience. Et du coup, j'ai été diplômée en avril et aujourd'hui, je me cherche une opportunité fixe.
Mais Mélina, c'est extraordinaire ce que vous nous racontez. Donc, vous avez osé. Aujourd'hui, vous êtes électricienne, vous avez repris des études. Électricienne, en plus, c'est un métier qui a été longtemps considéré comme un métier d'homme. Vous avez bravé plein de choses.
En fait, il faut dépasser sa peur.
Plein de préjugés.
Et préjugés aussi, surtout. Mmh.
Quand vous allez chez les gens, vous êtes déjà allés...
Ils sont très surpris.
Ouais.
Très, très surpris. Mais en fait, en communiquant avec eux, ils sont tout de suite très enchantés. Et ils me voient travailler. Donc derrière, le résultat, il est là. Ils ne se posent pas trop de questions. Hein. C'est même plutôt positif. Ça fait beaucoup de bouche à oreille. Et c'est comme ça qu'en fait, on fait une place dans le métier.
Qu'est-ce qui était le plus difficile, Mélina ? C'est de reprendre les études, d'assumer de vouloir devenir électricienne ? C'est quoi ?
Le plus difficile, en fait, c'est de dépasser sa propre peur, c'est de se lancer. Ensuite, les choses, elles déroulent. Ça va tout seul. On se rend compte que, bah, on a énormément de compétences, que finalement, c'est facile. Et c'est pas compliqué. C'est à partir du moment où on est passionné et on est déterminé, on arrive à tout. On fait même mieux. Mmh. Et on est hyper fiers de ce qu'on fait.
Et puis en plus, vous allez pouvoir utiliser vos compétences dans les ressources humaines, dans la gestion de votre métier. Tout est utile. Olivier Collot, PDG de Kiloutou, comment vous réagissez ? Parce que je vous vois écouter attentivement le témoignage de Mélina.
Ah bah, je veux déjà féliciter Mélina à plus d'un titre. Déjà vous féliciter pour votre audace, hein, avoir osé suivre ses envies, suivre ses passions et puis changer de vie, que ça soit dans l'endroit où on habite, mais surtout dans la carrière qu'on veut suivre. Donc bravo, et puis de reprendre des études. Effectivement, je trouve ça très impressionnant. Je vous félicite d'avoir choisi les métiers de l'artisanat du bâtiment, parce que ce sont des beaux métiers, des métiers qui ont du sens, des métiers qui sont implantés dans les régions, des métiers qui ont de l'avenir. Et puis alors l'exemple que vous donnez d'avoir une femme qui fait un métier
considéré
comme un métier d'homme, etc. Voilà, donc je vous utiliserai, Mélina, comme exemple pour montrer que quand on recrute des techniciens, des mécaniciens et des chauffeurs poids lourds, on peut aussi décliner ces métiers-là au féminin. Mais encore une fois, bravo.
Merci.
Et tout est possible, Mélina, grâce à votre témoignage. Hein, et bravo à vous pour votre reconversion. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous, Olivier Collot. Vous
merci.
Êtes le PDG de Kiloutou. Merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Nathalie Carré, on se retrouve demain. Aurélien Fleureau du service Économie d'Europe 1 sera à ma place. Premier bilan des soldes et de cette tendance autour des matières naturelles. Le patron d'American Vintage sera autour de la table de La France Bouge. À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.